À Chartres, Jean II trouva son hoste moins rassemblé et moins prêt qu'il ne le croyait. Il comptait sur une armée de 40 000 hommes, à peine en dénombrait-on le tiers. Mais n'était-ce pas assez, n'était-ce pas déjà trop, en regard de l'adversaire qu'il devait affronter ? Et je ne paierai point ceux qui ne se sont pas présentés, ce sera tout avantage, mais je veux qu'on leur adresse remontrance. Le temps de s'installer dans son trèfle fleur-de-lysée et d'expédier ses remontrances, quand le roi veut, chevalier doit, le duc de Lancastre, lui, était à Pont-Audemer, un fief du roi de Navarre. Il délivrait le château qu'un parti français assiégeait vainement depuis plusieurs semaines et renforçait un peu la garnison navarraise à laquelle il laissait du ravitaillement pour un an. Puis, piquant au sud, il allait piller l'abbaye du Bec-et-Loin. Le temps pour le connétable, duc d'Athènes, de mettre un peu d'ordre dans la cohue de Chartres, car ceux qui s'étaient présentés piétinaient les blés nouveaux depuis 3 semaines et commençaient à s'impatienter. Le temps surtout d'apaiser les discordes entre les deux maréchaux, Audrehem et Jean de Clermont, qui se haïssaient de bon cœur. Et Lancastre déjà était sous les murs du château de Conches, dont il délogea les gens qui l'occupaient au nom du roi. Et puis il y mit le feu. Ainsi les souvenirs de Robert d'Artois et ceux plus frais de Charles le Mauvais s'en allèrent en fumée. Il ne porte pas bonheur, ce château-là. Et Lancastre se dirigea sur Breteuil. À part Évreux, toutes les places que le roi avait voulu saisir dans le fief de son gendre étaient reprises l'une après l'autre. « Nous écraserons ces méchants à Breteuil, » dit fièrement Jean II quand son armée put enfin s'ébranler. De Chartres à Breteuil, il y a 17 lieues. Le roi voulut qu'on les couvrît en une seule étape. Dès midi, il paraît qu'on commença à dégrener des traînards. Quand les hommes parvinrent fourbus à Breteuil, Lancastre n'y était plus. Il avait enlevé la citadelle, pris la garnison française et installé en sa place une troupe solide, commandée par un bon chef navarrais, Sanche Lopez, auquel il laissait là aussi du ravitaillement pour un an. Prompt à se consoler, le roi Jean s'écria « Nous les taillerons à Verneuil, n'est-ce pas mes fils ?» Le dauphin n'osait dire ce qu'il m'a confié ensuite, à savoir qu'il lui semblait absurde de poursuivre 1 000 hommes avec près de 15 000. Il ne voulait point paraître moins assuré que ses frères cadets, qui tous se modelaient sur leur père, et faisait les ardents, y compris le plus jeune, Philippe, qui n'a que 14 ans. Verneuil, au bord de l'Avre, l'une des portes de la Normandie, la chevauchée anglaise y était passée la veille, tel un torrent ravageur. Les habitants virent arriver l'armée française comme un fleuve en crue. Messire de Lancastre, sachant ce qui déferlait vers lui, se garda bien de pousser vers Paris. Emmenant le gros butin qu'il avait fait en chemin, ainsi qu'un beau nombre de prisonniers, il reprit prudemment la route de l'Ouest. « sur l'aigle, ils sont partis sur l'aigle !» indiquèrent les vilains. Entendant cela, le roi Jean se sentit marqué par l'attention divine, vous voyez bien pourquoi. « Mais non, Archambault, pas à cause de l'oiseau. »« Ah, vous y êtes, à cause de la truie qui file, le meurtre de Monsieur d'Espagne. Là où avait été perpétré le crime, là même le roi arrivait pour accomplir le châtiment. Il ne permit pas à son armée de dormir plus de 4 heures. » À l'aigle, il allait rejoindre les Anglais et Navarrais, et ce serait l'heure, enfin, de sa vengeance. Ainsi, le 9 juillet, ayant fait halte devant le seuil de la truie qui file, le temps d'y ployer sa genouillère de fer, étrange spectacle pour l'armée, que celui d'un roi en prière et en pleurs sur une porte d'auberge. Il apercevait enfin les lances de Lancastre, à 2 lieues de l'aigle, en lisière de la forêt de Tubeuf. Tout cela, mon neveu, venait de se passer quand on me le conta, 3 jours après. « Lassez hommes, formez bataille !» cria le roi. Alors, pour une fois d'accord, le connétable et les deux maréchaux s'interposèrent. « Sire, déclara rudement Audrehem, vous m'avez toujours vu ardent à vous servir, et moi aussi, dit Clermont. Mais ce serait folie de nous engager sur le champ. Il ne faut plus demander un seul pas à vos troupes. Depuis 4 jours, vous ne leur donnez point de répit, et ce jour même vous les avez menés avec plus grande hâte que jamais. Les hommes sont hors de souffle. Voyez-les donc, les archers ont les pieds en sang. » Et s'ils n'avaient leur pique pour se soutenir, ils s'écrouleraient sur le chemin même. « Ah, cette piétaille, toujours, qui ralentit tout !» dit Jean II, irrité. « Ceux qui chevauchent ne valent pas mieux, » lui répliqua Audrehem. « Maintes montures sont blessées au garrot par leur charge, et maintes autres boîtes qu'on a pu referger. Les hommes d'armure, attentalés par la chaleur qu'il fait, ont le cul saignant. N'attendez rien de vos bannières avant qu'elles n'aient pris repos. « Outre quoi, sire, renchérit Clermont, voyez en quel territoire nous irions attaquer. » Nous avons devant nous une forêt dense où Messire de Lancastre ses retraits. Il aura toute aisance de faire échapper son parti, cependant que nos archers vont s'empêtrer en taillis et nos lances chargées des troncs d'arbres. Le roi Jean eut un moment d'humeur méchante, pestant contre les hommes et les circonstances qui faisaient échec à sa volonté. Puis il prit une de ces décisions surprenantes, pour lesquelles ses courtisans l'appellent le bon, afin que leur flatterie lui soit répétée. Il envoya ses deux premiers écuyers, Pluyant du Val et Jean de Corquilleret, vers le duc de Lancastre, pour lui porter défi et lui demander bataille. Lancastre se tenait dans une clairière, ses archers disposés devant lui, tandis que des éclaireurs partout observaient l'armée française et repéraient des chemins de repli. Le duc aux yeux bleus vit donc arriver devers lui, escorté de quelques gendarmes, les deux écuyers royaux qui arboraient pennons fleurdelysés à la hampe de leur lance et qui soufflaient en cornet comme des héros de tournoi. Entouré de Philippe de Navarre, de Jean de Montfort et de Godefroy d'Harcourt, il écouta le discours suivant que lui tint Pluyant du Val. Le roi de France arrivait à la tête d'une immense armée alors que le duc n'en avait qu'une petite. Aussi proposait-il au dit duc de s'affronter le lendemain avec un même nombre de chevaliers de part et d'autre, 100 ou 50 ou même 30, dans un lieu à convenir et selon toutes les règles de l'honneur. Lancastre reçut courtoisement les propositions du roi qui se disait de France, mais n'en était pas moins partout réputé pour sa chevalerie. Il assura qu'il envisagerait la chose avec ses alliés, qu'il désignait de la main, car elle était trop sérieuse pour en décider seul. Les deux écuyers crurent pouvoir déduire de ses paroles que Lancastre donnerait réponse le lendemain. C'est sur cette assurance que le roi Jean commanda de dresser son trèfle et plongea dans le sommeil, et la nuit des Français fut celle d'une armée ronflante. Au matin, la forêt de Tubœuf était vide. On y voyait des traces de passage, mais plus d'Anglais ni de Navarrais. Lancastre avait prudemment replié son monde vers Argentan. Le roi Jean laissa éclater son mépris pour ses ennemis sans loyauté, seulement bons au pillage quand ils n'avaient personne devant eux, mais qui s'éclipsaient dès qu'on leur offrait combat. Nous portons l'étoile sur le cœur, tandis que la jarretière leur bat le mollet. Voilà ce qui nous distingue. Ce sont les chevaliers de la fuite. Mais songea-t-il à les prendre en chasse ? Les maréchaux proposaient de jeter les bannières les plus fraîches sur la voie de Lancastre. À leur surprise, Jean II repoussa l'idée. On eût dit qu'il considérait la bataille gagnée dès lors que l'adversaire n'avait pas relevé son défi. Il décida donc de revenir vers Chartres pour y dissoudre l'Ost. Au passage, il reprendrait Breteuil. Audrehem lui remontra que la garnison laissée à Breteuil par Lancastre était nombreuse, bien commandée et bien retranchée. « Je connais la place, sire, on ne l'enlève pas facilement. » « Alors pourquoi les nôtres s'en sont-ils laissés déloger ?» lui répondit le roi Jean. « Je conduirai le siège moi-même. » Et c'est là, mon neveu, que je le rejoignis, en compagnie de Capocci, le 12 juillet.